France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Caroline Loeb à l'occasion de son spectacle sur Françoise Sagan et d'un disque en hommage à la romancière qui fut aussi parolière de chansons. Une occasion d'évoquer avec Caroline Loeb ses autres passions de mistinguette à George Sand, mais aussi l'inoubliable succès de Selawat et tous les aspects d'un parcours atypique entre chansons, scène et mise en scène. Caroline Loeb à ce micro dans quelques instants, le temps d'écouter un poignant duo d'amour.
Dès que je te vois, je suis folle de joie.
Pas de boniment, hein. Je t'en prie, va-t'en, hein.
Oh, toi, hein? Tu aimes faire pleurer les femmes.
Je pense bien. Je mais t'en prie, tais-toi, hein.
Mais je suis à toi.
Première nouvelle.
Tu ne le sais donc pas.
Ça m'intéresse pas.
Oh, toi.
Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce genre-là?
Tu aimes faire pleurer les femmes. Pourquoi passes-tu,
hein,
sans te retourner?
Oh, dis.
Moi qui devant toi reste en extase.
Une fois en marchant, je me suis retourné, pas. Et puis je me suis mis le nez sur un bec de gaz, alors.
J'ai souffert pour toi.
Je pense bien.
Comme une martyre.
T'es trop sensible.
Est-ce que tu me crois?
Ah, laisse-moi donc rire, hein.
Oh, toi.
C'est pas rien, alors.
Tu aimes faire pleurer les femmes.
Tu pleures d'un rien, c'est ça que t'as.
Avant.
Oui.
De te rencontrer.
Oui.
Jamais.
Oui.
Je n'ai tant aimé.
Que tu dis?
Sois gentil.
Tu m'ennuies.
Oh, chérie.
Tu m'ennuies.
Oh, chérie.
Oh, t'as fini, oui.
Pourquoi, hein, ce rire sardonique? Pourquoi, hein, cet air sarcastique?
Sarcastique?
Sois gentil.
Sarcastique, vous rendez,
oh,
compte,
chérie.
Tu m'embêtes avec tes,
oh,
sarcastiques,
chérie.
Tu ferais mieux de faire du tricot.
Dès que je te vois.
Encore?
Je suis folle de joie.
Tu me l'as déjà dit. Assez, j'ai compris, hein.
Toi,
là que ça recommence.
Tu aimes faire pleurer les femmes.
Mais heureusement j'étais là.
Oui, mon chéri.
Mais qu'est-ce que tu dis?
J'adore ta voix.
Mais tu ne te fous pas de moi, non?
Toi,
quelle tristesse de voir ça.
Tu aimes faire pleurer les femmes.
T'as pas honte de pleurer comme ça? Ah, puis tu vas voir, tiens, comme tu veux pleurer, je vais te foutre une bonne trempe, moi, comme ça, tu vas pleurer pour quelque chose.
Je t'adore, t'es mon homme.
Ah bon?
Je veux t'épouser.
Ah ben ça va pas mieux.
Je te gagnerai de l'argent, t'auras la vie en rose.
Mais comment que tu feras? T'as un fonds de commerce?
T'en fais pas pour ça.
Non.
Ah, tu me bouleverses.
Ah bon?
Et moi, je ferai tout pour devenir ta femme.
Et je crois que c'est une très brave fille, ça, au fond, hein.
Bon, lui, évidemment, vous l'avez reconnu, mais elle, hein, vous la connaissez, Simone Alma, née en 1922, morte en 2000. Elle a eu beaucoup de succès dans la chanson, d'ailleurs. Et là, c'est donc un duo écrit par Bourvil pour les paroles, avec son fidèle Étienne Lorrain. Pour la musique, Tu aimes faire pleurer les femmes, enregistré avec l'orchestre Marius Coste en 1952. Un duo d'amour à retrouver dans un très joli double CD qui vient de sortir, Les plus beaux duos d'amour. Alors, il y en a pour tous les genres, hein, Francky Jordan et Sylvie Vartan, Marcel Amon et Colette Desréal, Brassens et Patachou, du comique, du tragique, du sentimental. Les plus beaux duos d'amour, un double CD qui vient de paraître chez Marianne Melody.
Thank you.
c'est drôle, dans le studio, on était tous à rebondir comme si on était à cheval. Ben justement, ça s'appelle un galop. C'est un galop d'Émile Waldteufel, intitulé Prestissimo, par l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, sous la direction de Willy Boskowski.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais il est temps de retrouver mon invité, une invitée que j'avais eu la joie d'accueillir voici déjà une bonne dizaine d'années, pour évoquer ses spectacles et ses chansons, parmi lesquelles la fameuse Selawat. Aujourd'hui, elle est de retour avec un spectacle très apprécié sur Françoise Sagan, qui retrouve en ce moment la scène au théâtre Le Pic. Et puis elle sort aussi en même temps un hommage à Françoise Sagan, un CD intitulé « Comme Sagan ». J'ai le plaisir de recevoir ce matin Caroline Loeb.
Mélange d'alcool, de mélancolie folle, à l'abri sous mon loup, je m'alanguis de tout. Et pour donner le change, c'est d'une plume d'ange que j'invite le diable, rouge ou noir à ma table. Caché sous mon masque, de phrases et de frasques, c'est à la renverse que la vie me traverse. Malgré les bourrasques, de flaques en flasques, je tâte et titube, la vie à plein tube. Mettez-moi en joue, mise au point sur mes flous, blottis sous ma légende, chair à feu et à cendre, estampillée jeunesse, au comptoir de la liesse, juste un trait de détresse, vieillir à fond la caisse, caché sous mon masque, de phrases et de frasques, c'est à la me traverse. Malgré les bourrasques, de flaques en flasques, je tâte et titube, la vie à plein tube. Voilée d'indolence, délit d'adolescence, à peine l'on devine l'effroi sous la sourdine, à peine l'on suppose le roncier sous la rose, au fracas du carrosse, l'enterrement sous la noce. Caché sous mon masque, de phrases et de frasques, c'est à la renverse que la vie me traverse. Malgré les bourrasques, de flaques en flasques, je tâte et titube, la vie à plein tube. Malgré les bourrasques, de flaques en flasques, je tâte et titube, la vie à plein tube.
Bonjour Caroline Loeb.
Bonjour Benoît Dutertre.
D'abord, j'aime bien commencer avec une chanson enjouée, puis en même temps, je me disais, tiens, sous mon masque, Caroline Loeb, qui a été sous le masque de George Sand, sous le masque d'Arletty et de Madonna, aujourd'hui sous le masque de Sagan, non, c'est pas un peu ça aussi, vous?
Bah c'est assez paradoxal en fait, parce que c'est effectivement le masque de Sagan, la perruque de Sagan, le costume de Sagan, et en même temps j'ai l'impression d'être complètement à poil sous ce masque.
Ah oui.
Ça me permet de me révéler, je pense, avec une sincérité, j'espère, de plus en plus à fleur de peau. Enfin voilà, moi elle me touche profondément.
Bien sûr, mais vous aimez bien, d'une façon générale, je dirais, parler de vous, créer quelque chose, en passant aussi par quelqu'un d'autre, par une figure,
ouais, j'aime bien.
Une figure disparue, une figure que vous aimez.
En fait, vous savez, comme artiste et comme personne, on se construit tous avec les autres, avec des choses qu'on... Ouais. Qu'on adore quand on est petit, qu'on adore quand on est adolescent, des chansons qu'on écoute, des livres qu'on lit, et on est vraiment fait de ça. Et c'est vrai que moi, Sagan, elle me permet de cristalliser, enfin, elle cristallise chez moi des choses très importantes, cette pensée, cette intelligence. Donc, j'aime bien aussi la forme d'élégance que ça représente de parler de soi sans être comme ça frontalement narcissique, voilà. Sans dire moi je. Ça, voilà, pour moi, ça me permet de toucher les autres avec un tout petit pas de côté. réaliser.
Et c'est le sens de ce disque qui sort, hein, comme Sagan, où il y a d'ailleurs à la fois du Caroline Loeb par elle-même et du Sagan par Caroline Loeb et encore d'autres. Et là, cette chanson, Sous mon masque, elle m'a bien plu aussi avec son auteur-compositeur. Dites-nous un mot de lui.
Ah, alors, Pascal Marie, il a un talent fou. Ouais. Il m'avait écrit deux chansons pour le spectacle sur George Sand. Ouais. On est copains d'Avignon parce que tous les ans, je suis au Festival d'Avignon et tous les ans, il y est aussi.
Il est comme vous entre théâtre et musique, beaucoup.
Beaucoup plus, hein, musique, lui. Oui, non, non, oui. Lui, il est vraiment auteur-compositeur-interprète. Lui, vraiment, il chante, c'est ça qu'il fait. Il fait pas de théâtre, mais il a un talent fou. Il a une plume extraordinaire et je suis très fan de Pascal Marie.
Voilà, bah vous avez fait un bon choix et puis plein d'autres. Dites-nous juste un mot, on y reviendra tout à l'heure, de la couleur musicale de cet album.
C'est plein de couleurs différentes en fait, parce que j'aime des choses très différentes. Donc il y a ce côté un peu bastringue qu'on vient d'entendre, il y a des valses, il y a une chanson qui est presque comme un rap, comme un slam qui est sur Bonjour New York, qui est un texte de Sagan que je dis sur une musique de Jean-Louis Pierrot. Il y a des ritournelles, il y a des choses très très différentes.
Voilà. Mais il y a toujours ce travail du son que je trouve dans tous vos disques, ce goût de l'arrangement, de la couleur.
Ça, oui, alors beau. Je vais vous dire, ça c'est quelque chose pour lequel je fais entièrement confiance au réalisateur. Voilà. Parce qu'il y a des choses que je sais faire et puis il y a des choses que je ne sais pas faire. Mmh. Et j'avoue qu'en studio, c'est vraiment le réalisateur qui est chez lui et qui fait les choses comme il le sent.
En l'occurrence,
Jean-Louis Pierrot. Voilà. Et ça a été un bonheur de travailler avec lui. C'était facile, c'était évident. Et il a un talent fou. Il accompagne Dao depuis 30 ans. Il a travaillé avec Bachung, Fontaine. Enfin voilà, c'est une merveille.
Voilà, donc Caroline, ça c'est votre disque Comme Sagan qui vient de sortir, et puis dans le même temps vous reprenez sur la butte Montmartre au théâtre Le Pic votre spectacle Françoise par Sagan. On croyait que c'était fini, puis heureusement ça recommence.
Et c'est jamais fini en fait.
C'est jamais fini. Ça fait combien d'années que ça dure
C'est la troisième année.
Hein, voilà quand même.
Ouais, ça fait plus de 300 fois que je le joue, et là je vais faire a priori les dernières parisiennes le 10 mars, donc il reste quelques dates. Et, voilà, ça joue dans ce merveilleux théâtre de Salomé-le-Louche. J'ai l'impression que le théâtre a été construit pour mon décor, tellement c'est raccord avec le côté art déco, noir et or du décor.
Et on en dit partout que du bien, mais ça on va y revenir tout à l'heure, on va faire, comme c'est la tradition dans l'émission, une petite remontée dans le temps en votre compagnie. I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. In my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain. With the thoughts you'd be thinking, you could be another Lincoln if you only had a brain. Oh, I tell you why, the ocean's near the shore. I could think of things I never thought before, and then I'd sit and think some more. I would not be just a nothing, my head all full of stuffing, my heart all full of pain. I would dance and be merry, life would be a ding-a-dairy if I only had a brain. Je ne vais pas vous faire l'insulte de dire que c'est un souvenir d'enfance, le Magicien d'Oz en 1939.
Ah oui, non, mais je ne l'ai pas vu à sa sortie.
Bon, on est d'accord, c'était Ray Bolger dans la bande originale du film Caroline Loeb. Non, mais c'est vrai que c'est un souvenir d'enfance, ça vous a marqué.
Ah ben c'est quasiment toute mon enfance peut se résumer au Magicien d'Oz. Parce que comme j'ai eu la chance d'avoir une enfance new-yorkaise, tous les Noëls, on voyait le Magicien d'Oz à la télé. C'était le rituel.
Ah oui.
C'est le film, c'est pour ça que c'est
avec
un film.
Avec La Vie est belle, non?
Non, surtout le Magicien d'Oz. Et en fait, quand on s'intéresse un peu au cinéma américain, on s'aperçoit qu'il y a des références au Magicien d'Oz dans 80% des films américains, peut-être 50%, peut-être que j'exagère, mais dans Toy Story, dans plein de films, des films qui n'ont rien à voir, des films d'horreur, il y a toujours le magicien d'Oz.
Et ce passage avec Ray Bolger?
Oh, bah, c'est une merveille absolue, c'est l'épouvantail qui dit si j'avais un cerveau, je serais peut-être intelligent. Évidemment, il est intelligent. Et c'est aussi pour ça que j'adore le magicien d'Oz, parce que c'est une espèce de voyage spirituel, philosophique. Tous y cherchent quelque chose et ils cherchent tous ce qu'ils ont déjà, évidemment.
Voilà, mais alors j'ai vu que dans vos souvenirs d'enfance, aussi, par exemple, dans un genre très différent, il y avait aussi les Noces de Figaro, Chérubin.
Ah oui.
C'est vrai?
Ah ben oui, parce que j'écoutais énormément d'opéra. Ma mère était dingue d'opéra. Oui. Donc on écoutait l'opéra à fond dans la maison. Et moi, j'ai eu mes premières extase, vraiment, je peux dire, avec Verdi, avec Mozart, plus tard avec Puccini. Mais j'étais dingue des opéras de Mozart et de Verdi. Et j'ai eu la chance d'aller voir Les Noces de Figaro au Metropolitan à New York.
Et c'est Chérubin qui vous a marqué.
Et c'est Chérubin. Et quand la chanteuse est arrivée en chantant l'aria de Chérubin, Boy, que ça pète. C'est pas exactement la bonne tonalité, mais c'est pas grave. J'ai eu un coup de foudre. Ça m'a transpercé, cette femme qui chantait un jeune homme sur le désir, sur l'amour. Je suis tombée raide dingue de la chanteuse et de ce personnage. Ouais.
Voilà, mais il faut dire que vous avez grandi à New York, Caroline Loeb, mais d'une famille qui venait vraiment du milieu artistique parisien de tous les côtés, enfin, que ce soit votre mère ou votre père.
Hein, oui, mon père est le fils de Pierre Loeb, qui a été un très très grand marchand de tableaux.
Donc vous avez peut-être croisé Henri Oppel, les peintres de cette génération. Non,
je les ai pas croisés parce que justement, on vivait à New York.
Oui, bien sûr.
Donc
oui.
Du coup, j'ai très très peu vu mon grand-père. Et du côté de ma mère, c'est plutôt les artistes russes, parce que son père était un grand artiste russe. Donc voilà, il y avait un grand.
Mais du côté de votre mère, vous auriez pu croiser aussi Pierre Schaeffer ou des gens comme ça, non?
J'ai croisé Pierre Schaeffer en l'occurrence, absolument, parce qu'elle était admise de la fille de Pierre Schaeffer, Marie-Claire. Mais voilà, ouais. Oui, c'est surtout par ma mère quand même qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de littérature, de musique, d'opéra, de chanteurs. Et on écoute. Et moi, j'ai commencé évidemment à m'intéresser à la chanson en écoutant les disques de mes parents. Et c'était Yvette Guilbert, c'était Reggiani, c'était voilà, c'était vraiment la belle chanson française, Barbara, etc.
À quel moment est-ce que vous avez décidé de faire du théâtre et d'entrer au cours Florent?
Je vais vous dire, en fait, j'ai jamais décidé de devenir artiste. Ça m'a toujours paru une évidence.
Ah oui.
Donc, quand j'ai eu mon bac, j'étais m'inscrire 3 mois à Vincennes, lettres, théâtre et cinéma. Je me suis horriblement ennuyée. J'avais pas du tout envie d'être dans une salle avec un prof qui m'explique des trucs. Donc, j'ai tout de suite été au cours de théâtre. Et là, ma vie a commencé.
A commencé. Alors, vous avez évoqué là tout de suite quelques noms de chanteurs. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure aux chanteurs d'autrefois, parce que vous leur avez aussi rendu hommage, notamment dans le spectacle sur Miss Tinguette, mais un peu plus près comme génération, il y a Henri Salvador.
Alors ça, c'est un grand souvenir d'enfance.
C'est souvenir d'enfance. Moi, c'était Zorro est arrivé, on avait le 45
aussi,
tours.
Aussi, ouais. Zorro est arrivé, bien sûr, mais Attila et là...
Alors celle-là, je la connaissais pas, elle est formidable.
Me faisait particulièrement rire, mais on pleurait de rire. On écoutait ça avec mes petits frères et on pleurait de rire. Et voilà, Henri Salvador, c'est génial. Moi, j'adore les fantaisies, j'adore Annie Cordy, Carlos me fait beaucoup rire. J'adore Sim, enfin voilà, il y a toute une flopée comme ça d'artistes fantaisistes et qui viennent de cette tradition de la chanson française des années 20, des années 30. C'est les héritiers d'Ouvrard, de Maillol, de Pauline Carton, de tous ces gens.
Vous faites plaisir.
Merveilleux. Non mais attendez, c'est tout vient de là. Donc Henri Salvador, c'est une merveille, bien sûr.
Si nos ancêtres les Gaulois avaient parfois la frousse, ce n'était pas du tout que le ciel leur tombe dessus en douce. Non, ces braves gens avaient la trouille quand on leur annonçait 22 les gars, voilà les uns. Alors ils s'écriaient
Attila est là,
Attila est là,
Attila est là.
Des uns comme moi, il n'y en a pas deux. Je suis le fléau de Dieu.
Cet asiatique aux yeux bridés avait les cheveux longs. Il avait peut-être les idées courtes. Là n'est pas la question. On dit que pour se donner du nerf, lui et tous ses barbares. Bouffer matin, midi et soir, d'énormes steaks tartare.
Attila et le
Attila
et le
Attila et le Attila.
Des uns comme moi, il n'y en a pas deux. Je suis le fléau de Dieu.
Attila.
En amour, si t'es pas le gars,
oh, Attila,
à faire de jolies phrases,
oh,
mais il savait d'un seul regard,
oh, Attila,
allumer les gauloises,
oh,
et Astérix c'était Furax,
oh, Attila,
car après son départ,
oh,
des petits gaulois aux yeux bridés,
oh, Attila,
chantaient 9 mois plus tard, Attila est là,
Attila est là,
Attila est là,
Attila est là.
Comme moi, il n'y en a pas deux. Je suis le fléau de Dieu que je vous dis.
Et oui, Caroline Loeb est là sur France Musique.
Avec... Et sous elle, l'herbe repousse, j'espère quand même.
Et sous elle, l'herbe repousse. Cette chanson de 1967, voilà, c'est un souvenir de petite fille, ouais. J'imagine. Une chanson d'Henri Salvador, d'ailleurs éditée dans son label Rigolo. Voilà, on a retrouvé le 45 tours. Et Caroline Loeb, là, à ce moment-là, vous étiez déjà rentrée à Paris à l'âge de 10 ans, je crois.
C'est ça.
Ça vous a fait quoi, tout d'un coup, de passer de New York à Paris
Ça n'a pas été marrant du tout, en fait.
Ah bon, pas tellement.
Non, ça a été vraiment la douche froide. Autant l'enfance américaine était brillante, joyeuse, pleine de fantaisie, devant Central Park, extraordinaire. Autant le retour à Paris, ça a été un gros coup derrière la tête.
Ah oui.
Voilà, après des problèmes de parents qui divorcent, de famille qui part en sucette, on va dire. Mon meilleur souvenir d'enfance, c'est mai 68, finalement, parce que il y avait des âgés dans...
Vous étiez un peu jeune pour y aller.
J'étais un peu jeune, mais du coup, on allait à l'école à pied, et c'était très amusant, on longeait la Seine, on allait à pied, puis il y avait des discussions dans les classes, donc voilà, ça mettait un peu de vie, un peu de fun dans ce retour qui était un peu morne, je dois dire.
Voilà. Mais voilà, heureusement, le théâtre est arrivé.
Théâtre est arrivé.
Avec donc le cours Florent, qui était, à l'époque, c'était plus souvent le cours Simon, d'ailleurs, non? Vous avez choisi Florent.
Alors je me souviens du cours Simon parce que j'allais au lycée à Victor Duruy et que je les voyais répéter dans le square devant l'église de Victor Duruy. Mais non, c'est chez Florent que j'ai été. Mais chez Florent, quand c'était rue Rodier, que c'était lui qui donnait les cours. Voilà, vraiment les débuts de Florent.
Voilà, alors puis vous êtes peu à peu entré dans le métier. Vous avez eu parmi vos professeurs Francis Huster?
J'ai fait un stage avec Francis Huster. Voilà. Ouais, c'était une drôle d'histoire parce qu'en fait, il venait de jouer avec Isabelle Adjani, Ondine, à la Comédie-Française. Il était tombé fou d'Adjani et il m'avait demandé de jouer Adjani. Ça, rien que de dire ces mots aujourd'hui, je comprends même pas comment c'est possible qu'on puisse me demander de jouer Adjani, mais enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais fait. Et du coup, je l'avais rencontré à la sortie du stage et depuis, chaque fois que je la croise, on a un rapport très amical et elle me touche beaucoup et je suis très, très touchée par son côté extrêmement écorché, comme ça, écorché vive, ça me parle.
Et parmi les rencontres marquantes aussi, alors de ses premières années d'activité artistique, vraiment, disons, professionnelle, il y a Alfredo Arias, le
très
groupe
important.
C, voilà.
Enfin, c'est Alfredo Arias sans Alfredo Arias, en fait.
Oui,
parce que j'ai commencé par voir les pièces du Tse, donc c'était
le
comme...
Tse, voilà, c'était la compagnie légendaire, on peut presque dire
d'Arias,
aujourd'hui,
d'Alfredo
voilà. Arias. Ouais.
Mais avec lui, il y avait Martial Béraud, Facundo et Maru Chabot, Rafael López Sánchez, Javier Arguello, tout ça, c'était la flopée d'Argentins qui était arrivée au milieu des années 70 de Buenos Aires pour fuir la dictature. Et donc, avec eux, je découvre l'histoire du théâtre, luxe, et je me dis, mais je savais pas que le théâtre, ça pouvait être aussi génial, que ça pouvait être aussi drôle, que ça pouvait avoir autant de références hollywoodiennes, être aussi glamour. Et après luxe, les deux auteurs se sont fâchés avec Alfredo et ont monté leur propre pièce. Et c'est avec eux que j'ai fait mes débuts au théâtre, avec sept rôles, dans une pièce qui s'appelait Succès, qui n'en a pas eu.
Qui n'en a pas eu. Bon. Dans ces années-là aussi, Caroline Loeb, vous êtes une des jeunes femmes... en vue dans les nouvelles boîtes à la mode, au Palace et au Bain-Douche en particulier.
Je suis un pilier de boîtes de nuit, cher ami.
Pilier, hein, voilà. Hein. Enfin, ça a été important dans votre vie. Et ça, vous avez été vraiment une figure de ce monde parisien très joyeux de toute fin des années 70, début des années 80.
Pas que joyeux, il faut quand même le dire, parce que c'était quand même assez destroy. Mais oui, j'ai commencé à sortir très très jeune, vers 16 ans. Et c'était tous les soirs. Mais quand je vous dis tous les soirs, c'est tous les soirs. Tous les soirs, ça commençait avec le Club 7, qui était la boîte de Fabrice Aimer avant qu'il n'ouvre le Palace, rue Sainte-Anne, où on croisait quand même Nureyev, Saint-Laurent, Warhol, Kenzo. Enfin, c'était inouï. Ensuite, le Palace, les bains. Et c'est là que vraiment...
Au moins, vous faisiez partie de ceux qui pouvaient entrer. Il y avait tous les autres qui attendaient devant. Un jour pouvoir...
Ben oui, je faisais partie des Happy Few, mais je faisais partie aussi des gens qui passaient toute leur journée à se faire un look, qui passaient tous les week-ends aux puces pour trouver des fringues complètement démentes et pour s'inventer des personnages. C'était un vrai théâtre. On était déjà au théâtre avec le Palace et avec les bains.
C'était aussi du théâtre.
Et puis c'était le génie de Fabrice Aimer, de mélanger des gens comme les sœurs Kelfa qui arrivaient d'Aubervilliers, ou moi, ou plein d'autres gens qui avaient pas un rond. Et on nous offrait des verres et on picolait à l'œil. Et tout ça pour attirer la clientèle riche. Et nous, on faisait partie du décor.
Ah oui, c'est ça.
Ça faisait le sel du palace. Et après, il y avait les gens qui avaient du pognon qui payaient.
Et c'est cette ambiance alors musicale, bien chaude et dansante des boîtes de nuit qui vous a donné envie de faire votre premier disque, Caroline Loeb?
Peut-être, c'est surtout que j'écoutais beaucoup Serge Gainsbourg en fait. J'étais dingue de Gainsbourg et au début des années 80, c'est l'explosion de Gainsbourg avec évidemment Aux Armes, etc. Je me souviens encore physiquement où j'étais quand j'ai entendu cet album pour la première fois et le choc que ça a été de découvrir
à ce point-là.
C'était extraordinaire. Moi, c'est vraiment j'adorais ça parce que c'était à la fois joyeux, drôle, génial musicalement et noir, profondément dépressif. Donc ça mélangeait tout ce que j'aime, une espèce d'élégance comme ça, un peu caustique, tout son travail sur les mots, ça me fascinait. Évidemment, le fait qu'il était fou de Baudelaire et de Picabia et tout ça était avec beaucoup, beaucoup de références. Et j'ai commencé à écrire parce que j'adorais Gainsbourg. Donc voilà, j'ai commencé à chanter parce que j'écrivais en fait, pas parce que je chantais.
En tout cas, vous aviez une sacrée bande de musiciens pour votre premier disque, Piranana.
Oui, j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelait Ronnie Rogers, avec l'accent new-yorkais, et qui lui-même bossait avec toute la bande de Kid Creole and the Coconuts.
Et voilà, qui était aussi très à la mode à ce moment-là, il faut dire.
Qui était super à la mode, qui était absolument géniaux, et qu'on écoutait au Club 7, Guy Cuevas mettait tout le temps « Chercher la femme ». C'était la chanson qu'on écoutait toutes les nuits de Savannah Band, qui était le premier groupe de Kid Creole. Et donc, j'ai eu tous ces musiciens sur mon premier album, Piranana.
L'enregistrement, c'était joyeux?
C'était des nuits très très blanches.
Dans tous les sens du terme.
Dans tous les sens du terme, oui.
Alors, on va écouter une des chansons de ce premier album qui s'appelle Narcissique.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est assez fou, c'est que je me suis retrouvée...
Vos paroles, vous avez tout de suite été votre parolière.
Oui, j'ai fait cet album parce que j'écrivais des paroles, autrement j'aurais jamais fait de disque. Ouais. Et cette chanson, ce qui est assez fou, c'est que le mix est très barré, et ce qui fait que j'ai commencé vraiment comme artiste underground dans la musique.
Miroir à contempler ta mort sans voir.
Caroline Loeb en 1983 dans son premier album Piranana, donc avec ce titre narcissique, et vous nous le disiez, l'influence de Gainsbourg. Vous êtes allé le voir à un moment donné, le grand Gainsbourg, vous avez cherché?
Je l'ai d'autant mieux vu qu'on a travaillé sur un livre ensemble, voilà. Où j'étais styliste photo, c'était l'époque où je...
Parce que vous travailliez à ce moment-là avec Jean-Baptiste Mondino.
Avec Mondino comme styliste, oui, voilà. J'ai travaillé un petit peu avec lui, j'ai adoré travailler avec lui, il était extraordinaire de drôlerie, et puis bon, ouais. Talent fou. Et donc, il y avait mon nom qui circulait un peu parmi les stylistes photos de Paris. Et ouais. Donc, Serge Gainsbourg m'a appelé. J'étais rue de Verneuil et j'ai dû travailler pour lui pour cet album qui s'appelait Bambou et les poupées. Et voilà. Ma mission, ça a été essentiellement de trouver des poupées gonflables. C'est donc, vrai. Ça a été un grand moment. Rue Saint-Denis, avec mon Polaroid, à demander au monsieur, au type dans ses échoppes sordides, ouais. De me sortir des poupées gonflables. Une sorte des boîtes avec du plastique. Il y avait juste la tête avec un trou à la place de la bouche. C'était vraiment atroce. Donc, quand j'ai apporté les photos à Gainsbourg, il était évidemment effondré parce que c'était vraiment pas du tout, du tout ce qu'il voulait. Et finalement, j'ai trouvé une vraie belle poupée en latex. Et voilà, j'étais très...
Mais il était gentil quand même.
Très gentil, j'étais très émue de rencontrer Gainsbourg. Ouais.
Mais vous aimiez bien déjà à ce moment-là, donc, ou alors c'était la nécessité, si j'ose dire, travailler pour les autres, justement, comme styliste, pour des pochettes de disques, pour des costumes, pour tu sais, tout ce qu'on peut... Tout ce qui est l'habillage du show business, au fond.
C'était un
ça
peu
vous
la...
a toujours passionné?
Non, c'était un peu la nécessité. Enfin, c'est un peu l'occasion qui a fait le larron. C'était une copine à moi qui était styliste pour Mondino et qui, tout à coup, a pas pu le faire et m'a mis sur le coup. Donc, en même temps, ça m'a beaucoup appris parce que quand j'ai commencé à faire de la mise en scène, je savais où trouver tous les costumes, je savais où trouver les décors. Enfin voilà, je savais bricoler tout ce qu'il fallait sur un plateau. Voilà. Et ça, je l'ai appris en allant faire des shoppings avec ma mobilette.
Ça a bien marché le premier disque, Piranana?
Non, pas très bien.
Pas très bien. Donc c'est la deuxième fois après succès que ça marche pas très bien, mais après ça va très bien marcher tout d'un coup.
Oh là là.
Alors bon, voilà, le sujet douloureux entre tous.
Oh là 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 là.
C'est la Watt.
Oui.
Bon, comment vous l'avez enregistré ce morceau? Comment ça s'est passé? Pourquoi
Tout est parti une fois de plus de textes, de quelques phrases de Pierre Grillé, qui est un pote des boîtes de nuit, donc de toutes les nuits au bain et au palace. Et il avait son petit carnet, il arrivait avec des phrases de toutes les matières, c'est la voix qu'elle préfère, et d'autres phrases comme ça qui sonnaient bien. Pierre Grillé a toujours eu le sens des allitérations, des mots qui sonnent. Et j'ai flashé là-dessus, j'ai commencé à écrire mes phrases aussi. Il y a eu des petits allers-retours de textes, et puis voilà, ensuite...
Ben oui, ça a atterri chez Philippe Chagny. Studio, l'enregistrer, etc.
C'est tombé chez Philippe Chagny avec plein d'autres textes. Il a choisi celui-là et c'est devenu C'est la Watt. Je ne vais pas vous raconter tous les détails parce qu'après c'est une longue histoire. Mais on s'est fait jeter de plein de maisons de disques pendant 6 mois.
Avant que ça marche.
Marche. Ah oui. On a tout entendu. C'est une bonne phase B. Il faut changer la chanteuse. Ça a été proposé à Stéphanie de Monaco, à Josiane Balasco. Enfin, c'était une histoire assez rocambolesque. Et finalement, quand c'est sorti.
Ça a marché tout de suite.
Ça a été du délire.
Tout de suite.
Tout de suite.
Tout de suite.
Tout de suite. Enfin, ça marche pas tout de suite comme ça. C'est aussi parce que j'avais une amie qui était très amie avec Pierre Lattès, qui s'occupait de Fun Radio, et que donc il a eu le disque très vite et que c'est lui.
Ah, les radios.
Les radios libres.
Et oui, les radios libres.
Ah ben oui. Ah, c'est à la fois magique et à la fois, vous savez, c'est toutes nos vies artistiques et sans doute pas artistiques tiennent souvent à une personne qui peut faire basculer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et là, Pierre Lattès, ça a été vraiment quelqu'un qui a commencé à programmer ça à la radio.
Mais quand on est artiste, c'est ce dont on rêve toujours un peu, parfois pendant longtemps, c'est le truc qui tout d'un coup marche vraiment. Ça a dû être un peu grisant au début quand vous avez vu, mais voilà, ça marche vraiment. Quoi.
Ah non, c'était fou. C'est un fantasme absolu, bien sûr, de devenir une pop star, voilà. De voir des gens qui s'arrachent les cheveux quand ils vous voient passer, voir des foules hystériques, de pas de photos, tout ça, c'est génial. Sauf que bon, c'est quand même pas que marrant.
Paresseuse, paresseuse, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la Watt.
Oui, je disais, donc c'est le problème du tube, c'est que ça vous poursuit toute la vie et qu'on ne vous parle plus que de ça.
En même temps, il y a un pire problème.
Hein, oui, parce c'est que ça. On pourrait ne plus m'en parler. De l'argent, de la gloire.
On pourrait ne plus m'en parler, on pourrait ne plus me reconnaître. On me reconnaît encore, on m'en parle encore, les gens l'aiment toujours, donc c'est formidable. Mais comme artiste, c'est vrai qu'après, c'est un petit peu compliqué de continuer à exister finalement et de continuer à créer des choses et qui intéressent les gens, qui touchent les gens, parce que ça devient une espèce de vampire de toute sa vie artistique, ce succès.
Bien sûr, mais sauf que je connais beaucoup de chanteurs ou de chanteuses qui ont un problème supplémentaire, c'est qu'en plus ils courent tout le temps ensuite après un deuxième tube qu'ils n'arrivent pas toujours à faire en voulant faire d'autres chansons. Et vous, au fond, après C'est la Ouate, vous êtes assez rapidement passer à d'autres activités qui n'avaient rien à voir avec la chanson, quitte à revenir d'ailleurs plus tard à la chanson.
Je ne dirais pas qu'il n'avait rien à voir, parce qu'en fait, vraiment, je me suis remise sur pied avec la mise en scène.
Avec le fait d'être chanteuse.
Oui, j'étais plus chanteuse, mais je me suis remise sur pied, j'insiste, en mettant en scène Michel Hermant au Bouffe du Nord et avec la mise en scène. Et voilà, essentiellement avec la mise en scène de chansons, de musique, et j'aime tellement la musique, c'est quelque chose qui fait tellement partie de moi, que être de l'autre côté et créer des images pour qu'on écoute mieux, pour qu'on entende mieux, et en plus travailler avec Michel Hermant, qui est un immense artiste, ça a été extraordinaire.
C'est ça, mais je veux dire, vous avez changé de registre.
J'ai changé de place.
Voilà, vous avez changé de place, et c'était peut-être très sage, plutôt que d'essayer de faire un second C'est la Ouate, qui ne serait peut-être jamais arrivé.
Ça aurait été impossible de toute façon, on ne fait pas deux fois un ovni.
Question quand même, on va revenir à vos activités de metteur en scène, mais C'est la Ouate, ça a été adapté dans plein de pays, il y a plein de versions de transformations, de parodies, ce qui est la marque du vrai succès.
Il y a beaucoup de parodies, j'avais fait une version en anglais aussi, qui s'appelle And So What. Ouais. On avait traduit le texte avec mon copain Serge Grimbert et on avait fait une très jolie traduction, je dois dire. Ouais. Donc je suis très fière. Je vais vous faire le refrain, si vous voulez bien. C'est In any position, she has a disposition.
Oh là.
For pillows and be mellow, she just wants to be low, and so what. Voilà, donc on avait trouvé des sonorités qui rappelait le texte original.
Et après, les détournements comiques aussi de la chanson, il y en a eu certains.
Oui. Il y a eu beaucoup de parodies incroyables, version C'est le Kawa, C'est la droite, voilà, la version bretonne, enfin bon, je ne les compte plus.
Voilà, mais effectivement, à ce moment-là, très raisonnablement, vous vous dites, tiens, je vais faire autre chose, je vais faire de la mise en scène. Deux spectacles musicaux, effectivement, avec Michel Hermant. Vous l'aviez rencontré comment, Michel Hermant?
Michel Hermant, en fait, l'histoire est assez incroyable, parce qu'il m'avait mis en scène dans une pièce de Tilly, qui s'appelait Spaghetti Bolognaise, donc on se connaissait depuis longtemps, mais lui comme metteur en scène et moi comme comédienne, et quand on s'est revus en 92... il en avait ras-le-bol d'être metteur en scène. Moi, je sortais de l'espèce d'essoreuse de C'est la Ouate. Donc, j'étais connue comme artiste de variété. Et lui, connu comme metteur en scène. Et il a voulu se mettre à chanter. Et donc, je me suis retrouvée, moi, chanteuse de variété, à mettre en scène Michel Hermant, grand metteur en scène, qui se mettait à la chanson.
Oui, c'était curieux. Hein.
Donc, ça a été une inversion de place. Mais ça a été extraordinaire. Parce que, d'abord, j'ai adoré travailler avec lui. Et puis, on a créé ça au Bouffe du Nord. Et j'ai découvert que j'étais metteuse en scène. Et ça a changé ma vie, vraiment.
Faut dire... C'est quelqu'un qui a vraiment un amour, justement, du patrimoine, comme on dirait, de la chanson française, etc., entre autres, mais aussi Schubert. Il aime bien se balader, comme vous le faites aujourd'hui, dans le répertoire des belles chansons poétiques.
Oui, on a fait ensemble le voyage d'hiver, on a fait un spectacle sur Marlène Dietrich, parce que comme moi, il est raide, fou, dingue de Marlène Dietrich. Ouais. Et ce premier spectacle, c'était autour de Piaf. Ensuite, on a fait un spectacle sur Léo Ferré. Il adore la chanson. Et puis ça, c'est des grandes, grandes chansons, quoi. C'est vraiment c'est des œuvres extraordinaires.
Vous adorez être metteur en scène, mais pas au point de vous mettre en scène vous-même, par exemple, dans le spectacle sur Sagan. Hein.
Non, je trouve que c'est toujours important.
On se voit pas.
D'abord, on se voit pas. Ouais. Ensuite, on se désire pas, j'ai envie de dire, comme un metteur en scène. On a besoin du regard extérieur, du désir extérieur, d'un point de vue qui soit pas le sien. Après, avec la vision d'Alex Lutz, moi j'ai eu plein d'idées, j'ai fait plein de choses, on a vraiment travaillé ensemble, mais j'aurais pas eu cette vision-là sûrement du spectacle, et vraiment je le remercie pour ce regard qu'il a eu.
Voilà, et puis Michel Hermant, il y a eu d'autres expériences après, justement, de mise en scène de spectacles souvent musicaux, par exemple Lio chante Prévert.
Voilà, il y a eu Lio chante Prévert, il y a eu Victor Laszlo qui reprenait ce répertoire merveilleux des années 20, des années 30, ça s'appelait Loin de Paname, avec des musiciens cubains, c'était extraordinaire. concerne, voilà, vraiment, moi j'adore travailler avec les musiciens, les chanteurs. En ce moment, j'ai un spectacle qui tourne beaucoup, qui s'appelle Les Bons Becs. C'est des extraordinaires clarinettistes, percussionnistes, et ils font un tabac partout où ils vont. Ouais. Et voilà, c'est des gens qui passent de Mozart à Handel, à Nino Rota, à James Brown, à Michael Jackson, et tout ça avec une fraîcheur, un talent, une énergie. C'est très... très jubilatoire de mettre en scène la musique, pour moi.
Vous parliez tout à l'heure des chansons que vous entendiez enfant, et notamment tous ces grands chanteurs du passé, notamment ces chanteurs français. Vous avez rencontré Arletty, je crois.
Oui, j'ai rencontré Arletty, pas très loin d'ici. Là, on est à la Maison de la Radio, c'était rue Mirabeau. C'est un moment très très émouvant parce qu'évidemment Arletty elle fait partie de mon panthéon. Ouais. Elle était complètement aveugle. J'avais été emmenée par deux copines, mes premières attachées de presse qui avaient été les attachées de presse de l'album Piranana, Bodo et La Traverse. Et donc elle connaissait bien Arletty. On avait été déjeuner ensemble et comme elle était aveugle, elle m'avait touché le visage comme ça avec ses mains et elle était tombée sur des énormes boucles d'oreilles que j'avais d'un monsieur qui s'appelle Patrick Rétif. Elle avait fait mais qu'est-ce que c'est beau. Et Bodo et La Traverse lui avaient dit Caroline Loeb elle a la boucle de travers, et Arletty avait eu cette phrase géniale, elle avait dit « Comme Maud Lotti, c'était la reine des boulevards, ça vous portera chance !» Et elle était extraordinaire, de fraîcheur, de drôlerie, elle riait comme une petite fille, elle avait un manteau sublime, alors quand on sort de chez elle, je lui fais un compliment sur son manteau, je dis « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau votre manteau, Arletty !» Elle me dit « Oui, c'est Asdine qui me l'a fait, vous le connaissez ?» Je dis « Bah non, ah, vous le connaissez pas ouais. !» Elle était rapide, elle était extraordinaire.
Vous l'aimez aussi comme chanteuse d'ailleurs?
Oui, j'adore. Bah, chanteuse, c'est un peu comme Miss Tinguette. Elle chantait extrêmement mal, mais tout est dans l'esprit, ben voilà. Tout est dans l'humour.
La diction, le jeu.
Voilà, et puis c'est des personnalités merveilleuses.
Bon, bah, on aurait pu d'ailleurs écouter la Arletty
ou Miss Tinguette. Moi j'en ai marre. Du soir au matin.
Vous êtes allé voir Fric Frac récemment?
Oui, bien sûr.
Je pense c'est Arletty qui me fait penser à ça. Un des grands succès de la saison aussi.
Avec l'extraordinaire Emeline Bayard.
Qui est venue ici même et que j'aime beaucoup aussi.
On adore.
Voilà. Et qui chante très bien. Finalement, on a choisi quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être Yvette Guilbert, que chante très bien aussi Emeline Bayard d'ailleurs, parce que vous adorez Yvette Guilbert.
Ah oui, moi, ça a été ma première idole, Yvette Guilbert. Ouais.
À ce point-là?
La toute première. Ah oui.
Ah, je veux dire, petite fille, vous écoutiez Yvette Guilbert?
Petite fille, oui. Ah, j'écoutais ça en boucle et j'étais fascinée par la pochette avec le dessin de Toulouse-Lautrec, par cette gueule incroyable et par cette façon de dire les mots tellement intelligente, tellement drôle, tellement unique. Donc ça a été ma première idole.
Et on pourrait dire que Guilbert, c'est le cynisme, mais vous avez plutôt choisi le romantisme, c'est Damia.
Ah oui, bah ça c'est Tout fout le camp. Tout fout le camp, c'est une grande chanson aussi.
Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan. Le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, dépouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim. Pas un cri, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde. Bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde. Cramponnez-vous, tout fou le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors?
Ouais, bah vous avez bien choisi, hein, Caroline.
C'est, beau, hein,
c'est très très beau. Ouais. Vous ferez un spectacle sur Damien peut-être un jour.
Je ne sais pas, je peux pas faire, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire en fait.
Finalement, c'est Miss Tinguette que vous avez mis à l'honneur quand vous avez décidé de justement d'aller vous promener aussi dans l'histoire de la chanson française en 2008 avec Miss Tinguette, Madonna et moi.
Voilà, c'était pas que Miss Tinguette.
Non.
Il y avait aussi Joséphine Baker, il y avait aussi Annie Cordy dans ce spectacle, il y avait des chansons à moi, il y avait plein de choses.
Voilà, mais c'était donc une façon, oui, de pour la première fois, d'aller vous promener dans l'histoire des artistes.
Oui, puis de faire le lien surtout entre ce qui me rattachait à ces personnages-là et à ces chanteuses-là. C'est-à-dire, c'est que des femmes avec des personnalités très particulières. C'est que des gens à qui on a dit, comme on l'a dit à Yvette Guilbert, mademoiselle, faites ce que vous voulez, mais surtout ne faites pas de music-hall. Et c'est quand même, et elle devient la reine du music-hall. Miss Tinguette, elle n'était pas faite pour
elle
ça.
Elle chantait pas bien quand même. Hein,
elle chantait pas bien. Madonna non plus. Joséphine Baker non plus. Et voilà, tout ça, c'est des femmes qui ont réussi uniquement avec une originalité absolue. Ça me touche beaucoup.
Voilà. Ça a été d'ailleurs un spectacle qui a bien tourné, Miss Tinguette, Madonna et moi.
Pas mal, oui, voilà. Oui.
Et puis finalement, mais on dirait qu'il a fallu que la Watt soit bien digéré avant que vous ne décidiez de vous remettre à faire un disque et à travailler avec des musiciens pour enregistrer des chansons nettement plus tard, 2007,
oui,
Crime Parfait.
Il y a eu Crime Parfait.
Voilà.
Avec.
Mais comment c'est revenu, voilà.
Mais moi, j'ai toujours adoré la chanson.
Oui.
Après, il y a eu le spectacle sur George Sand avec des chansons. Pour moi, chanson, ça a toujours fait partie de ma vie.
Mais il y en avait dans Miss Tinguette aussi. Mais là, il s'agissait à nouveau de faire un album de Caroline Love.
Oui, mais j'ai eu envie de refaire un album. Voilà, voilà. Je me suis dit, allez, on va faire ça. Et que j'ai produit, parce que ça fait quand même maintenant 10 ans que je produis mes spectacles, mes disques, en faisant des galas, en chantant C'est la Watt, entre autres. Et je me produis toute seule. Et je suis très heureuse parce que je fais vraiment les choses comme je l'entends. Mais voilà, donc le Crime Parfait, ça a été avec les collaborations de Bertrand Belin, de Tchett, de gens aussi que j'avais rencontrés.
Étienne Dao, en cours de route aussi, qui est devenu aussi un complice musical un petit peu plus tard.
Étienne Dao, c'est lui qui m'a présenté Jean-Louis Pierrot, avec lequel j'ai fait l'album Comme Sagan, qui est mon nouvel album qui vient juste de sortir. Donc ça, c'était important comme transmission.
Oui, vous aviez déjà un petit peu travaillé avec lui auparavant.
Ah, c'est vrai, oui, on avait écrit un texte ensemble. Oh là,
oui, c'est vrai.
La fille qui sait plus ce qu'elle a fait.
Ah, oui, j'ai retrouvé dans la discothèque de Radio France.
Paris sans interdit, on avait fait ça, genre en 89, un truc comme ça. Oui.
Et alors là, on va écouter une chanson justement de Bertrand Belin que vous avez évoquée, qui s'appelle J'ai envie.
Voilà, j'ai écrit le texte, il a fait la musique, c'est une maquette en fait. Mais la maquette est vraiment jolie et j'avais envie de la partager avec vous.
J'ai envie de tout ce qui se fait, se dit debout. J'ai envie de tout ce luxe qui grise de musc. J'ai envie de marcher dans les rues de Rome d'un homme. J'ai envie de speeder dans les rues de New York en écoutant Björk. J'ai envie d'aller un peu n'importe où. J'ai envie de manger, de goûter à tout. J'ai envie de couleur, de soie, d'être ailleurs. Pourquoi pas d'ailleurs, d'Équateur. J'ai envie de peau, tout contre ma peau. Que tu me dises tout haut ce que tu me fais tout bas. Que tu me dises tout bas ce que ça te fait à toi. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça là. Et puis aussi là. J'ai envie de saison, de neige et du froid.
blottir dans des draps. J'ai envie de maison au milieu des champs, où on a si chaud qu'on se colle par terre. J'ai envie de peau tout contre ma peau, que tu me dises tout haut ce que tu me fais tout bas, que tu me dises tout bas ce que ça te fait à toi. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça là. Envie que de toi, que tous les bonheurs et toutes les couleurs, que tous mes malheurs et que toutes mes peurs ne soient que l'effet de tes mains sous moi, de ta bouche sur moi.
J'ai envie, une belle chanson, c'est vrai, avec une merveilleuse trompettiste, hein, et Bertrand Belin qui est un excellent musicien.
Oui, qui explose en ce moment, ça fait plaisir, ah oui, je l'adore, il a une poésie unique, il a un univers très fort, il écrit aussi, c'est un magnifique artiste.
Voilà, et ça c'était donc vous, Caroline Loeb, en 2009, dans cette chanson, après laquelle bah, on en arrive presque à Françoise Sagan, mais disons qu'on en arrive en tout cas au fait que après avoir célébré un certain nombre d'artistes de musical dans Miss Tinguette, Madonna et moi, ce sont les écrivains qui ont commencé à vous intéresser davantage.
Les écrivaines en l'occurrence.
Et en l'occurrence même les écrivaines, puisque ça a commencé avec Georges Sand. Mm. Oui. Comment? Vous n'allez pas me dire que vous lisiez depuis toujours du Georges Sand.
Non, je ne lisais pas du tout depuis toujours du Georges Sand. Alors là, c'est un peu... je ne veux pas dire que c'est une commande, mais presque. Ouais. C'est Laurent Ballandras, avec lequel je travaillais, qui cherchait à faire des livres-disques pour enfants d'après les contes d'une grand-mère. Il m'a dit, lis les contes d'une grand-mère. Ah, il m'a fait des photocopies des textes. J'ai commencé à lire. Ça m'a ennuyé au dernier degré. Au bout d'une page, j'ai repoussé le truc. J'ai dit, bon, vraiment, franchement, c'est pas ma came. Et en revanche, tout à coup, j'ai découvert la femme et j'ai découvert le personnage. Et alors là, j'ai lu une biographie, deux biographies, trois biographies. Et j'ai passé 5 ans à lire tout ce que je trouvais sur elle, et sa vie m'a totalement, absolument fascinée.
Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire, vous ne seriez pas la seule, que le personnage, Georges Sand, est presque plus intéressant que l'écrivain?
Elle a écrit des très très belles choses. Ouais. Non, franchement, il y a des très belles choses, mais elle a beaucoup écrit, parce qu'elle quand même, elle écrivait pour faire bouillir la marmite, ouais, et pour payer les factures. Donc évidemment, tout n'est pas génial, mais... Je connais moins bien l'œuvre que la femme, en fait. Ouais. Donc, je peux pas... Mais franchement, le personnage est fantastique. Et la curiosité, la gourmandise, cette passion pour la littérature, la botanique, la nature, les animaux, la peinture, la musique, c'est une espèce d'encyclopédie vivante. Genre, je sens la révolution, les textes révolutionnaires, c'est inouï. Tous les champs qu'elle touche, et toujours avec une espèce de lucidité, d'intelligence, de passion fantastique.
Voilà. Et ce spectacle a bien marché d'ailleurs. Et alors vous avez eu l'idée en fait de le prolonger encore là avec un disque.
En fait, c'était un spectacle dans lequel il y avait aussi des chansons. Voilà. Donc c'était un mélange un peu de presque de stand-up, parce que ça s'appelait Georges Sand, ma vie, son œuvre. Donc je faisais le lien entre moi. C'était comme une espèce de mise en abîme.
Comme vous faites toujours. On pourrait dire, Caroline.
Donc moi, essayant d'écrire un spectacle sur Georges Sand, qui est une chose impossible parce que c'est une vie tellement démente qu'on peut pas la résumer en 1h20. Et par le biais de l'écriture du spectacle, j'arrivais à parler quasiment de tout. Mais je parlais aussi de d'Annie Ernaux. Il y avait un passage avec les échanges de lettres Georges Sand Musset, qui sont peut-être les plus belles lettres d'amour de la littérature française. Et donc des chansons. Donc j'avais mis des chansons dans le spectacle, ce qui me semblait assez évident, parce que Georges Sand avait un rapport extrêmement physique à la musique. Ouais. Quand elle a rencontré Liszt, elle se couchait sous le piano pour que ça vibre plus, et elle disait réellement qu'elle jouissait par l'oreille, ce que je peux comprendre, parce que c'est moi l'effet que ça me faisait quand j'écoutais de l'opéra quand j'étais petite à New York. C'était vraiment des orgasmiques. Donc chanter des choses autour de George Sand, ça faisait du sens. Elle adorait la chanson, c'était une vie, une partie très importante de sa vie, la musique.
Voilà, donc mais c'était un choix musical musical personnel autour de George Sand. Voilà, voilà, effectivement, comme vous avez fait aussi, on peut dire, pour Sagan, même si là, pour le coup, il y a des chansons de Sagan. On va le voir tout de suite, parce que voilà, c'est votre spectacle, on l'a vu, qui a suivi George Sand et qui tourne maintenant depuis trois ans. Sagan, donc... Là, peut-être, pour le coup, vous l'aviez lu plus que George Sand.
Mais pas du tout. Encore moins que George Sand.
Encore
si
moins.
Possible. Non, en fait, alors là, c'est pas exactement la même histoire, mais c'est que je connaissais un peu Sagan parce que, évidemment, dans les années 80, je la voyais chez Pivot, dans Apostrophe.
On peut pas ne pas l'avoir vue, oui.
On peut pas l'avoir vue. Ouais. Je connaissais évidemment l'interview de Desproges, qui était une merveille. Et j'avais vu plus récemment le film de Diane Curis avec l'extraordinaire Sylvie Testu. Et c'est un personnage qui me plaisait beaucoup. Mm-hmm. Parce qu'elle a un côté comme ça, unique, étrange, un peu rock, rebelle, intelligente. Et avec quelque chose de très particulier comme ça que j'aimais bien. Mais j'avais souvent acheté ses livres et je les avais jamais ouverts. Parce que j'avais toujours autre chose à lire. Bref. Et un jour, on m'offre les interviews de Sagan. Je ne renie rien. Et là, j'ai un coup de foudre total pour ces interviews. Et je pense que si j'avais lu ces livres, ça m'aurait peut-être pas autant frappé à quel point l'intelligence était aiguë, l'humour, l'élégance, en fait, etc. Si j'avais été familière de l'œuvre, j'aurais peut-être trouvé ça normal. Mais là, je me suis vraiment pris ça de plein fouet et j'ai eu l'envie de faire ce monologue d'après les interviews.
Alors je disais, contrairement à George Sand, évidemment, Sagan a écrit des chansons.
Hein,
elle a été très liée notamment avec Michel Magne, qui a été aussi un des grands musiciens de l'époque. Vous les connaissiez ces chansons aussi un peu
Mais je les ai connues récemment parce que je savais pas du tout qu'elle avait écrit des chansons. On m'a envoyé le double
CD
de chez Frémaux.
Voilà, Sagan Magne avec l'orchestre, une soirée chez Françoise Sagan, beaucoup de chansons par les chanteurs de l'époque. Et on pourrait en écouter une d'ailleurs, Juliette Gréco, Le Jour.
Oui, c'est magnifique. Alors, c'est vrai que Sagan n'a pas écrit énormément de chansons, mais ça a toujours été des espèces de petits bijoux, comme ça, délicats, sensuels. Ouais.
Le ciel, mais tu habites mes jours, la mer s'endort sur le sable, ton cœur s'endort sur mon cœur, demain sur ma nuque fera surgir le soleil. Ce soir cueille sa longue mélancolie, la vie, les feuilles, le bruit, l'alcool et la nuit. Va, moi je n'ai que toi, et tu n'as que moi, et tu nous perdras quand tu l'oublieras. Va, que faire sans toi, ni l'ombre sans joie, ni le soleil dur ne me l'apprendra. Je t'aime tant que j'en meurs de douceur quand tu m'as embrassé. Mais que je meurs pour de vrai si jamais ton amour me quittait. Le jour délaisse le ciel, mais tu habites mes jours, la mer s'endort sur le sable. Ton cœur s'endort sur mon cœur.
François Salian, quand on a parlé avec vous d'entretien, d'abord au départ, on vous a téléphoné, on vous a dit on va faire des entretiens avec vous. Au départ, entretien, ça a dû vous ennuyer, le mot entretien, non ?
Ben non, m'entretenir avec quelqu'un, ce n'est jamais ennuyeux si quelqu'un est amusant.
Mais entretien, c'est pas sérieux comme mot, c'est pas un côté rigide, entretien ?
C'est un côté un petit peu formaliste, oui, c'est un côté un petit peu entretien, ça fait un peu...
France Culture.
Entretien avec... Non, c'est pas France Culture, c'est un côté... on va, nous allons nous entretenir d'un sujet. Alors, c'est un côté posé, quoi, de poser les choses.
Oui, vous me direz, on va bavarder un petit peu, on va s'amuser, même, on va même pas avoir de micro, on va parler de tout, de n'importe quoi. Mais c'est pas des, ce ne sont pas des entretiens.
Disons, des dialogues, une conversation.
Conversation.
Plus gai.
Plus gai, on s'arrêtera, on fumera.
Oui.
On aura un verre de temps en temps.
Voilà.
On ira voir la fenêtre ce qui se passe, il y a des automobilistes qui s'injurient.
On ira regarder les pigeons.
Voilà, c'est Françoise Sagan avec André Halimi. J'aime bien le ton de ces entretiens.
On sent qu'ils avaient le temps. Hein.
Ils avaient le temps
de discuter. Ouais.
Et c'est vrai qu'elle a un charme fou, mais il y a quand même quelque chose qui... Enfin, vous allez me dire ça, c'est pour tous les artistes qui vous ont inspiré, mais qui est difficile avec Sagan, c'est qu'elle a une façon de parler très particulière. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous sert ou qui vous contraint dans, quand vous reprenez vous-même ces textes parlés
Qui me contraint, non, mais c'est vrai que quand je suis sur scène avec les interviews, j'ai envie de dire, c'est plus moi qui suis sur scène,
ouais.
C'est elle.
Ouais.
Alors que c'est ni vraiment elle, ni vraiment moi. Mais voilà, c'est une façon de parler, c'est une façon de se tenir. En même temps, je parle pas comme elle, parce que si je parlais comme elle,
on
comprendrait rien, parce qu'elle parle beaucoup trop vite.
Elle avale beaucoup de mots.
Mais j'aime bien, comme j'aime bien parler vite aussi, j'aime bien la rapidité. Ça, c'est un de mes points communs avec Sagan. Ouais. C'est amusant de temps en temps d'avoir tout à coup des petites accélérations comme ça, dans le débit. Elle est très amusante à incarner Sagan, parce qu'elle est espiègle, elle est drôle et elle est en même temps au bord du gouffre. Donc c'est espèce de personnalité complètement contradictoire qui est très riche. Moi j'adore être dans ces mocassins.
Alors il a fallu d'abord composer le spectacle, hein, d'une certaine façon, en allant choisir, en piochant, en construisant. Comment ça s'est passé, Caroline Love ?
Oui, je me suis plongée dans ces entretiens, dans Je ne renie rien. J'ai commencé à enlever les choses qui m'intéressaient le moins. Après, je me suis retrouvée avec beaucoup trop de choses qui m'intéressaient beaucoup. Et puis couper, jusqu'à réduire à l'essentiel pour faire un spectacle d'une heure dix.
Voilà, mis en scène, donc on l'a dit, par Alex Lutz. Alors, comment ça se présente ?
Ça se passe beaucoup dans une espèce de semi-pénombre. C'est lui qui a eu l'idée, la vision de que je mette la perruque. Et donc voilà, quand elle arrive avec sa clope à la main, je dis elle, c'est même pas moi. Les gens voient Sagan et passent 1h10 avec elle. Donc il y a beaucoup de clair-obscur. L'idée c'est qu'on oublie que c'est moi, on oublie Caroline Loeb, ça me fait des vacances.
Mmh.
Et c'est vraiment un voyage intérieur dans sa pensée, dans ses aphorismes, dans ses fulgurances, dans sa tendresse. C'est d'un luxe fou, je vais vous dire, de pouvoir faire ça aujourd'hui,
ouais.
De pouvoir faire ça sans doute de tout temps, mais encore plus aujourd'hui où la marchandisation est devenue quand même une espèce de rouleau compresseur. Là, c'est 1h10 de caviar, de pensée, d'intelligence. Et c'est vraiment d'une qualité humaine merveilleuse.
Mais ça aurait pu être seulement une pièce, mais puisque c'est Caroline Loeb, il fallait bien qu'il y ait un peu de musique aussi sur scène.
Oui, j'ai demandé à Agnès Ollier de me composer la musique et elle m'a fait une musique comme une musique de film. Elle a beaucoup, beaucoup de talent. Donc, elle a retravaillé une chose de Bach en la tordant de plein de manières différentes. Ça, c'est une idée d'Alex Lutz. Et elle m'a composé un thème quand elle l'a joué au piano la première fois dans le studio de répétition. J'avais les larmes aux yeux, que je trouve absolument magnifique. Et c'est vrai que la musique arrive un peu comme au cinéma, comme une virgule ou pour accompagner une émotion ou un déplacement.
Voilà, et c'est donc au Théâtre Le Pic en ce moment. Ça avait été nommé pour les Molières l'an dernier. Voilà, tout le monde aime ce spectacle et on peut encore le voir jusqu'au
10 mars. Voilà. C'est tous les jours à 19h, du mercredi au samedi, et le dimanche à 18h. Voilà.
Voilà, et on va écouter justement un petit extrait entre musique et texte de ce Françoise par Sagan.
Ce masque délicieux, un peu primaire, correspondait chez moi à des goûts évidents. La vitesse, la mer, minuit, tout ce qui est éclatant, tout ce qui est noir, tout ce qui perd et donc permet de se trouver. Car on ne m'ôtera jamais de l'idée que c'est en se colletant avec les extrêmes de soi-même, avec ses contradictions, ses goûts, ses dégoûts, ses fureurs, que l'on peut comprendre un tout petit peu, oh j'ai dit bien un tout petit peu, ce que c'est que la vie, en tout cas la mienne.
La musique de Françoise par Sagan, de Caroline Loeb et Françoise Sagan. Et cette musique, joliment jouée, hein, Caroline Loeb.
C'est Agnès Ollier et le Well Quartet, un quartet de filles qui joue aussi sur l'album comme Sagan. Voilà.
Voilà, l'album d'ailleurs, on va y revenir dans un instant, mais donc on rappelle qu'il reste voilà, une vingtaine de représentations au Théâtre Le Pic. Et puis j'ai noté quand même que finalement, ça doit être le temps qui passe qui fait que les choses sont moins graves ou moins lourdes, comme cette ouate qui vous a un peu agacé à une époque. Finalement, vous avez participé à des tournées sur les stars des années 80, en reprenant la chanson, vous l'avez reprise dans des émissions, j'en ai vu sur YouTube. Maintenant, ça vous amuse de temps en temps, entre deux spectacles, de refaire une petite ouate?
Ça ne me gêne pas. Non, non, bien sûr, ça m'amuse. Bah, écoutez, franchement, c'est un plaisir. Les gens sont contents. Moi, ça me permet de produire mes spectacles. C'est sympathique. Vraiment, je vois pas pourquoi je cracherais dans la soupe.
Absolument.
Non, 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 mais je suis absolument ravie qu'on continue à me proposer des dates. Ça m'arrange.
Voilà. Donc, la voix de parallèlement continue sa vie.
Voilà.
Mais Sagan, comme George Sand, a donné donc un enfant qui est ce disque qui sort maintenant avec donc un mélange de chansons. De vous, de chansons pour vous et de chansons de Françoise Sagan.
Voilà, et voilà. De textes de Sagan que j'ai fait mettre en musique.
Voilà. Un choix tout à fait personnel et subjectif dans tout ce qu'elle a fait dans le domaine de la chanson. Il y a quand même pas mal de choses avec Michel Magne, hein. Vous en avez retenu quelques-unes.
J'en ai retenu une, c'est Sans vous aimer qui a été chantée par Gréco.
Voilà.
Et puis autrement, c'est deux textes, c'est Bonjour New York et Les Maisons Louées. Qui sont des textes que je trouve absolument magnifiques. New York, évidemment, mon enfance new-yorkaise,
ouais.
Ça vibrait à mort. Les Maisons Louées, c'est une splendeur. Et puis le reste, c'est des choses qu'on a écrites, co-écrites, ou fait écrire par Pascal Marie, autour d'elle. Mais une fois de plus, c'est un peu comme le spectacle. C'est à la fois elle, et puis évidemment, c'est beaucoup des choses intimes, très personnelles. L'idée, c'est pas de faire comme un biopic, ou c'est pas un portrait de Sagan. C'est,
non, non. C'est du Caroline Loeb.
Voilà, c'est un puzzle avec l'image de Sagan qui s'entremêle sur voilà.
Avec des chansons formidables comme Toxique par exemple, hein, ou encore On ne sait jamais ce que le passé nous réserve.
Ça, c'est une phrase de Sagan qui est dans le spectacle, qui est une phrase que je trouve absolument géniale, une espèce de phrase avec des tiroirs inouïs de voilà, ce que raconte cette phrase est magnifique. Et on a eu l'idée avec Pierre Grillet, qui était mon co-auteur de Selawat, d'écrire toute une chanson autour de cette phrase. Et c'est mis en musique par Benjamin Sixou.
Voilà, et ben c'est avec cette musique qu'on va se quitter, Caroline Loeb. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je ne veux pas dire 20 ans après comme Dumas, mais 10 ans après.
Oui, vous c'est déjà bien 10 ans, ça suffit.
D'être revenu à ce micro pour nous parler de ce spectacle, de ce disque sur François, autour de François Sagan. Et j'espère à très bientôt.
Merci beaucoup, Baudouin du Tertre.
Après le crash, gâche la clinique, mon corps en miettes, la peur tragique, la mort, la douleur tyrannique. On m'a soulagé, dit c'est sans risque, bourré de cette molécule fatidique. On m'a dit c'est thérapeutique, subrepticement, ça devient chronique, c'est chaotique, le me voilà accro, c'est chimique, à ces substances despotiques qui n'ont rien d'homéopathique. Je suis en manque, c'est diabolique, mes nuits sont blanches, tyranniques. Au secours, un jour, c'est la panique. Schoolgirl droguée, tragicomique, pas très anonyme, la narcotique. Je suis tox, il y a comaïque, tout est toxique et je boxe contre la panique et ta critique.
Toxique, une chanson de Caroline Loeb que vous pouvez retrouver dans son nouvel album Comme Sagan, voilà, avec des chansons originales et aussi des chansons de François Sagan. Et Caroline Loeb, je vous le rappelle, donc, est jusqu'au 10 mars à Paris au théâtre Le Pic dans son spectacle Françoise par Sagan, mise en scène par Alex Lutz. C'est du mercredi au samedi à 19h, le dimanche à 18h. Et puis tout ça, vous le retrouverez également sur internet, sur le site carolineloeb.fr. Thank you. Ah, j'étais enchanté, grâce à la très riche discothèque de Radio France, de retrouver ces versions des valses de Strauss qu'on avait chez mes parents quand j'étais petit. Une version un petit peu resserrée parce qu'il n'y a aucune reprise. Ce sont les versions dirigées par le grand Max Schoenherr, qui était d'ailleurs un très bon compositeur viennois, avec l'orchestre du Volksoper de Vienne. Et vous avez reconnu ici la vie d'artiste.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis tiens, ce matin, en traversant Paris pour venir à la radio, je voyais qu'il y avait encore quelques ponts fermés par les forces de l'ordre pour le énième samedi de mouvement des Gilets jaunes. Et tout ça m'a rappelé une opérette de Reynaldo Hahn qui s'appelle Malvina, qui est une opérette qui se passe entièrement justement sur fond d'agitation, de manifestation, d'émeutes dans Paris. C'est l'arrière-plan seulement de l'opérette, mais en réalité, toute cette agitation permet aux deux héros de vivre tranquillement leur amour en se désintéressant justement totalement de ce qui se passe autour d'eux. Alors voilà, pour l'occasion, j'ai ressorti ce très joli duo de Malvina et Reynaldo Hahn. Ça date de 1935. Et voilà comment les amoureux vivent cette agitation. Ils sont chantés par les voix de Roger Bourdin et René Camilla. Et voilà comment on peut être loin au milieu de l'émeute qui gronde. C'est Malvina de Reynaldo Hahn qui se déroule pendant les Trente Glorieuses et qui m'a fait penser encore à une autre opérette, celle-là de Messager, qui se déroule aussi pendant des émeutes et une révolution. Et là, c'est la révolution de 1789. Paris commence à s'agiter et les milieux royalistes sont très indignés parce que le mari de Pontcornet essaie de se faire bien voir des révolutionnaires en chantant une chanson à leur gloire. C'est le sujet de ce petit extrait de François les Bas-Bleus de Messager.
C'est le soir des moutons, le soir de la montagne, 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 le soir de la montagne. mes amis, et vous pouvez m'en croire. Car je l'ai vu, vu de mes yeux, hélas. Oui, notre maître, avec des chants de gloire, s'est fait porter en triomphe là-bas. Oubliant tout, son antique noblesse, ses parchemins, le nom de ses aïeux. Il est passé, c'est là ceux qui nous blessent, depuis tantôt au camp des factieux. Ah vraiment, il n'est pas facile, s'il, à parler net, de trouver plus grand imbécile que le marquis de Pontcornet. Quand on a tout, la forêt, la plaine, de bons châteaux, des titres, des emplois, voyons messieurs, doit-on se mettre en peine de tous les gueux qui soufflent dans leur coin. S'en occuper, c'est franche du péril, mon cher marquis, mangez chaud, buvez frais. Mais s'en aller troubler ainsi sa vie, songer au peuple et prêcher le progrès. Ah vraiment, il n'est pas facile, s'il, à parler net, de trouver plus grand imbécile que le marquis de Pontcornet. C'est indigne, monsieur le marquis mêlé à des gens du peuple, et j'aurais vu ça, moi Jasmin. Hein. Ah, c'est ça. Entendez-vous ces cris? C'est le bon peuple de Paris qui acclame le marquis, notre maître, monsieur honteux.
Oui, oui, mes amis, vous pouvez compter sur moi, oui, oui. Excellent peuple, il m'appelle son libérateur. Je n'y comprends rien du tout.
Et ça, c'est Gaston Ray, que j'aime beaucoup, qui faisait partie de la troupe radio-lyrique, grâce à laquelle nous avons cet enregistrement de François Les Bas Bleus d'André Messager. Nous allons terminer, tiens, comme plusieurs fois ces dernières semaines, avec le grand Édouard Lalot, compositeur trop méconnu. Là, j'ai retrouvé une page de son génial ballet Namouna, et sous la baguette électrique de Paul Paré, c'est vraiment assez extraordinaire.
Thank you.
Les parades de foire de Namouna par Paul Paré et l'orchestre de Détroit, ça dépote comme on dit. Je crois qu'il met une minute de moins que tous les autres chefs dans ce merveilleux morceau. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, à la technique, Xavier Atteau avec Audrey Guélil, réalisation David Travailleur et Christine Amado. Et la semaine prochaine, l'opérette sera à l'honneur puisque ce sera un spécial Hervé Offenbach avec Dominique Guesquière et Étienne Jardin. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.